Ça fait quelque temps qu'on s'est vu le dimanche matin, mais on s'est entretenu ensemble sur la grâce. La grâce, c'est un sujet qui est très très important, on le sait, c'est un sujet sur lequel on revient périodiquement. Et mon désir, ça avait été de donner un coup de projecteur, de faire un zoom sur ce sujet-là et sur ce thème qui est tellement important, dans le sens où, en tant que chrétien ou en tant que chrétienne, mieux on comprend la grâce. Plus on comprend la grâce, et plus notre vie chrétienne sera épanouie. Mieux on saisit le sens et la portée de la grâce de Dieu, de la grâce qui a été manifestée en Jésus, et plus nous serons épanouis dans notre vie personnelle et dans notre foi chrétienne. C'est vraiment la clé essentielle pour avoir cette vie chrétienne solide. C'est vraiment la clé essentielle qui nous permet aux uns et aux autres de pouvoir continuer d'avancer dans notre vie chrétienne. Et c'est pour cette raison que je voudrais aller encore un petit peu plus loin avec vous dans ce thème. C'est la quatrième fois qu'on s'entretient ensemble de la grâce. Je pense que ce sera la dernière fois. Mais je voudrais l'aborder sous un angle un petit peu différent ce matin, parce que la pensée qui, au départ, me conduit à revenir sur ce sujet, c'est qu'on pourrait penser que la grâce, c'est juste une histoire entre Dieu et moi. La grâce a été manifestée au travers de Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, et au travers de ce qu'il a accompli, on reçoit le pardon, on reçoit la vie, on reçoit quelque chose de nouveau, une nouvelle perspective pour notre existence. Mais si la grâce est continuellement en action dans ma vie, parce que la grâce, c'est pas simplement quelque chose qu'on est appelé à vivre au moment où on se convertit, au moment où on reçoit la parole, au moment où on rencontre Jésus, la grâce, elle est appelée à continuer d'être agissante. Chaque jour de notre vie, chaque jour de notre engagement chrétien. Donc si la grâce est continuellement en action dans ma vie, elle va forcément avoir un impact sur mes relations avec les autres. Elle va forcément avoir un impact sur la communauté que je forme avec ceux qui partagent ma foi. En d'autres termes, elle va forcément avoir un impact sur l'Église, sur la communauté des croyants. Et je voudrais voir avec vous ce que la grâce qui agit en nous produit dans l'Église. Il y a ce qu'elle produit dans notre cœur, il y a ce qu'elle produit en nous lorsque nous recevons Jésus, mais il y a aussi ce qu'elle produit dans l'Église, dans la communauté que les uns et les autres ensemble nous formons. On va examiner ensemble ce qu'on pourrait appeler la répercussion collective de la grâce. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que la grâce inspire la joie. Une Église qui vit sous la grâce, c'est une Église joyeuse. Je crois vraiment ça, de tout mon cœur. Dans la vie, il y a toujours des temps de tristesse, il y a des temps de doute. On sait bien que la vie, elle n'est pas faite d'un seul bloc, elle n'est pas faite d'un seul tenant. Et là, les circonstances nous le montrent encore. Il y a des moments de joie, il y a des moments de bonheur, et puis il y a aussi des moments de tristesse, il y a aussi des moments d'incertitude. Et ce qui se passe dans une vie peut aussi se passer dans une église. Dans une église, il peut aussi y avoir des moments de flottement, des moments d'interrogation, des moments d'inquiétude également. Mais la joie est, à mon sens, l'une des caractéristiques fondamentales de l'église. Pourquoi ? Parce que la joie, c'est l'expression de la liberté. La joie, c'est l'expression de la satisfaction. Quand on est joyeux, ça veut dire qu'on est épanoui. Ça veut dire qu'on vit quelque chose qui nous rend joyeux. La joie, c'est l'expression de notre bonheur, de connaître Dieu, de connaître Jésus. C'est l'expression de tout ce que communique la grâce. Si par grâce je suis sauvé, si par grâce j'ai la perspective de l'éternité, si par grâce je vois Dieu agir dans ma vie, ça nous rend joyeux, ça me rend joyeux. La joie, c'est la répercussion inévitable de la grâce dans ma vie. Si je suis joyeux, si mon frère est joyeux, si ma sœur est joyeuse, si nous sommes joyeux ensemble, l'Église va être joyeuse. Je crois vraiment que la joie est intimement attachée à la grâce. Il y a environ 15 jours, le mardi soir, Noël a abordé ce thème de la repentance que Daniel avait déjà abordé le dimanche d'avant. Et pour partager avec nous ce thème, il avait appris sur une parabole très connue, une des plus connues de la Bible, qui est celle qu'on appelle la parabole du fils prodigue. C'est comme ça qu'on l'appelle la plupart du temps, qui se trouve dans Luc au chapitre 15. Et il l'avait pris sous l'angle de la repentance. Mais je voudrais revenir avec vous sur cette parabole ce matin, parce que l'histoire du fils prodigue, c'est vraiment une parabole de la grâce. Quand on lit l'histoire que raconte Jésus, on saisit pleinement, totalement, complètement, ce qu'est la grâce de Dieu. Alors on va lire cette parabole ensemble. Vous la connaissez bien, cette histoire. Mais on va revenir à ce texte pour pouvoir en tirer la substance dont on a besoin ce matin. Et puis, c'est aussi la possibilité pour ceux qui sont un peu moins familiers de ce texte de pouvoir en prendre connaissance. Et on va commencer la lecture au chapitre 15 de l'évangile de Luc, au verset 11, c'est là que ça commence. Jésus dit encore, il commence à raconter la parabole, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Vous voyez que parmi les deux fils, il y en a un, le fils cadet, qui va réclamer sa part d'héritage pour vivre sa propre vie. S'il réclame à son père sa part d'héritage, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Quand on touche un héritage, c'est à la mort du père. Lorsqu'il vient vers son père pour lui demander sa part d'héritage, il envoie ce message à son père, « Tu es mort pour moi. Je veux plus de contact avec toi. Je veux plus de relation avec toi. » Il coupe la relation avec son père. Et là, on peut bien entendu faire le parallèle avec notre propre histoire, notre propre condition. Le parallèle avec le péché qui est notre désir d'indépendance, notre désir d'autonomie à l'égard de Dieu. Souvent, quand on parle du péché, c'est ce que j'avais déjà dit avec vous quand on avait commencé à parler de la grâce, on imagine que le péché, c'est faire des choses mauvaises. Ce sont des actes mauvais. J'ai fait un péché, j'ai commis un péché. Mais le péché, avant d'être un acte, c'est un état. C'est l'état dans lequel nous sommes les uns et les autres. C'est l'état dans lequel les hommes se retrouvent naturellement. Et ce qui caractérise cet état, c'est justement de ne pas tenir compte de Dieu. C'est de faire comme si Dieu était mort. C'est d'accomplir notre propre volonté, de réfléchir par nous-mêmes, sans nous laisser inspirer, sans trouver en Dieu ce dont on a besoin pour notre vie. Ce qui est décrit pour le fils cadet, c'est la situation des uns et des autres. Lorsque nous ne croyons pas en Dieu, lorsque nous ne tournons pas vers Dieu, lorsque nous ne plaçons pas notre confiance en Dieu, lorsque nous n'avons pas cette relation avec Dieu. On va continuer la lecture, verset 14. Il alla donc se mettre au service. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Quand il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, il commença à manquer du nécessaire. Il aurait bien voulu se nourrir du fruit du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous résume rapidement, excusez-moi, excusez la confusion. Le fils, il a tout son argent, mais il est ruiné. Il dépense tout son argent dans la débauche, et ayant tout dépensé, il se retrouve complètement démuni, il meurt de faim, et il se sent indigne de son père. Il veut revenir dans la maison de son père pour lui demander pardon, mais il dit, je ne vais pas me présenter comme le fils, je voudrais être compté parmi les ouvriers de mon père, parmi les salariés de mon père. Vous voyez qu'il ne se sent pas digne de revenir vers Dieu, vers son père. Et ça, on peut faire le parallèle avec l'indignité que l'on ressent quand on se rend compte du mal qui est implacablement lié à notre nature, quand on se rend compte du mal que nous faisons, de nos pensées, de nos fautes, de nos erreurs, des résultats de notre vie sans Dieu. On se dit, on fait un retour sur soi-même, et on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli? Et on ressent cette indignité qui nous conduit au regret, à ce que la Bible appelle la repentance. On va lire la suite, verset 20. Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément compassion. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. L'accueil que le Père fait au Fils est complètement différent de ce à quoi le Fils s'attendait. Le Père accueille son Fils à bras ouverts, il court vers lui, il le prend dans ses bras, et il ne le place pas parmi les salariés, alors que c'était le désir de son Fils, mais il lui redonne sa place de Fils. Il est son Fils, il l'accueille comme son Fils, et il lui fait comprendre qu'il n'aura pas à mériter sa place dans sa maison. Il lui offre son pardon. Le Fils n'est pas accepté par son Père grâce à ses actions et à ses efforts, mais parce que son Père fait le choix de l'accepter. C'est le Père qui décide de l'accepter. Et là, on voit qu'il prend une décision souveraine. Et on a vu que la grâce de Dieu, c'est une décision souveraine que Dieu prend de nous pardonner, de nous accueillir, que nous n'avons aucune œuvre à accomplir, aucune action à faire pour pouvoir mériter le salut, pour pouvoir mériter sa présence. Mais que c'est un don gratuit, quelque chose que Dieu nous donne, comme le Père qui accueille son Fils gratuitement. Il prend cette décision souveraine qui n'est provoquée par rien, sauf par l'amour qu'il a pour son Fils. Et là, on peut encore faire le parallèle du péché de l'homme qui est pardonné par décision souveraine de Dieu. Rien ne permet d'obtenir le salut. Il n'y a aucun salaire que nous puissions verser pour que Dieu puisse répondre à nos besoins. On n'a aucun salaire à verser, aucune œuvre à accomplir pour pouvoir être sauvé. C'est Dieu qui décide de nous sauver. Le salut, c'est un cadeau qui est fait par grâce. Non seulement le Père accueille, mais vous avez vu que le Père donne. Au verset 22, il demande à ses serviteurs qu'on apporte au Fils la plus belle robe qu'il a, de la lui remettre, de lui passer une bague au doigt et de lui donner des chaussures. Et là, on peut faire le parallèle avec ce que Dieu nous donne par son Saint-Esprit. Toutes les richesses qui sont en lui, il va nous les partager, il va nous les communiquer. Et il nous communique tout ce dont on a besoin pour pouvoir faire sa volonté. C'est lui qui nous chausse pour qu'on puisse marcher dans sa volonté, pour qu'on puisse suivre le chemin qu'il a tracé pour nous. C'est lui qui nous donne les ressources nécessaires pour lui obéir. Ensuite, l'histoire continue. Au verset 23, il est dit, le Père prend la parole encore et dit, « Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le Père organise une fête en l'honneur de son fils, qu'il croyait perdu et qu'il a retrouvé. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison, là? Il y a de la joie dans la maison. Le salut, ça apporte la joie. La manifestation du pardon apporte la joie. La grâce amène la joie. Et là, c'est vraiment le parallèle qu'on peut faire avec la joie du salut, la joie de pouvoir vivre dans la présence de Dieu. Nous avons la joie et la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu, de bénéficier de la présence de Dieu. Et ça, forcément, ça a un impact dans notre cœur. Tout le processus du salut conduit à la joie. Tout ce que le Fils a connu, il est parti, il est revenu, mais au terme de ce processus, il y a la fête, il y a la joie. La joie inspirée par la grâce, c'est une joie qui se voit, c'est une joie qui s'exprime, c'est une joie qui s'entend, c'est une joie qui se partage. Vous savez, c'est sûr que quand on rencontre Dieu et quand on vit avec Dieu, c'est une expérience spirituelle, c'est une expérience intérieure. Mais des fois, on intériorise beaucoup quand même. Alors on peut dire, oui, je suis joyeux, mais tu vois, en fait, mon frère, ma soeur, ma joie, elle est intérieure, elle est très intérieure. Sauf que la joie, il me semble que quand on est joyeux, ça se voit. Quand on est joyeux, ça s'entend et ça se communique. Et en tant que chrétien et en tant que chrétienne, cette joie-là, on est appelé à se la communiquer ensemble. C'est quelque chose qui est visible, c'est quelque chose qui se manifeste. Parce que la joie qui est exprimée, elle a un impact, elle est ressourçante. Quelqu'un qui est joyeux et qui transmet sa joie, ça ressource, ça restaure, ça encourage. Elle permet d'atténuer la morosité de la vie. Et on est tellement facilement confronté à des choses qui nous attristent, qui sont difficiles à vivre. Mais là, grâce à la relation que j'ai avec mes frères, mes sœurs qui sont graciés et qui ont la joie de la grâce dans leur vie, je peux recevoir cette joie. Je peux partager cette joie. La joie, c'est communicatif. Et là, je pense qu'il devrait y avoir un grand amen à ça. Et je voudrais bien l'entendre pour de vrai, parce que je sais que même pour des angevins, la joie est communicative. Vous savez, les angevins, c'est amen, oui, la joie. Non. Les angevins, c'est comme le reste de la France et tout. La joie, ça s'entend, ça se manifeste. Alors, vous êtes joyeux?
Amen.
Je l'entends encore, vous êtes joyeux?
Amen.
On peut manifester notre joie, vraiment?
Amen.
On peut bénir Dieu? On peut lever les mains vers Dieu et lui dire merci pour ta grâce. Merci pour la joie que tu nous as donnée. Merci parce qu'on te connaît. On peut le dire.
Amen.
Ça, c'est bon. Vous êtes des angevins, mais vous êtes joyeux. C'est bon. Vous partagez votre joie et c'est bon. C'est communicatif. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre tout seul chez soi. C'est communicatif. Parce que je voudrais vous montrer une petite vidéo qui montre comment la joie est communicative, justement. Une petite caméra cachée qui a été faite à un arrêt de tram. Alors tendez bien l'oreille parce qu'on va passer par le micro. Ouais, tu peux mettre un peu plus. Donc, vous voyez, il cache les caméras. Hein. Ça, c'est un acteur. La vie du quotidien, hein. La banalité, l'amorosité. Regardez la dame. La preuve par l'image, hein. La joie est communicative. C'est cette joie que nous sommes appelés à nous transmettre les uns les autres. C'est cette joie aussi que nous sommes appelés à exprimer lorsque nous louons, lorsque nous adorons le Seigneur. La louange, c'est la joie. La louange, c'est une fête, en fait. C'est une célébration. L'adoration, je crois vraiment que c'est une fête. Parce que, alors c'est vrai, elle est composée de moments de recueillement, elle est composée de moments de contemplation, et c'est important aussi. Mais elle nous donne aussi l'occasion de manifester notre joie et notre bonheur d'être dans la présence de Dieu. Il y a quelques années en arrière, à l'occasion d'Actival, du Rassemblement Régional des Jeunes, on avait invité Luc Dumont. Un jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore connu, il viendra, vous le verrez, il n'y a pas de problème. Et il communique des choses extraordinaires. Et son ministère dans la louange, dans l'adoration en particulier, est très fort. Et il y avait un soir, j'ai déjà partagé ça avec vous, on avait passé du temps dans l'adoration. La soirée avait commencé à 20h30, elle s'était terminée vers 1h du matin. C'était un moment mais vraiment céleste. Et il y avait des moments où c'était vraiment la joie qui se manifestait. C'était vraiment une fête qui se manifestait. Les jeunes étaient là et ils manifestaient leur bonheur d'être ensemble, mais leur bonheur aussi de pouvoir être dans la présence de Dieu. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu de 20h30 jusqu'à 1h du matin, on est libre, on est libéré de plein de choses. Voilà, nos soucis, tout ça, on n'y pense plus. Hein, les examens, tout ça, on n'y pense plus. Et il y avait vraiment cette célébration qui se manifestait au travers du chant, la fête qui se manifestait au travers du chant. Ça, c'était le week-end de Pentecôte. On avait fait ça du vendredi jusqu'au lundi. Et puis, le samedi d'après, c'était la clôture du groupe de jeunes, ici à Angers. Et il se trouve que, pour faire la clôture, on est allé sur le campus à côté. Et donc, on pique-niquait, on partageait, les jeunes faisaient un foot et tout. Et c'était le jour où il y avait l'inauguration du tramway. Et c'était vraiment étonnant parce que pour l'inauguration du tramway, il y avait une fête qui avait été organisée. Il y avait des musiciens qui étaient venus, il y avait des chanteurs qui venaient, et les angevins, les gens qui étaient en ville, venaient pour faire la fête pour le tramway. Quelques jours auparavant, j'avais fait la fête pour Dieu, la fête pour le Seigneur, j'avais exprimé ma joie pour le Seigneur, et quelques jours après, je vois des gens qui viennent en ville pour faire la fête pour le tramway. Le tramway a changé ma vie. Le tramway m'a sauvé. Le tramway m'a permis d'aller d'un point A à un point B. Dire, mais si on peut faire la fête pour un tramway, on peut quand même faire la fête pour Dieu. On peut quand même faire la fête pour le Seigneur. Ça paraît évident, hein. Alors, on est appelé à être joyeux. Soyons une église joyeuse. Soyons une église joyeuse. Deuxième point, la grâce inspire la bienveillance. Une église qui vit sous la grâce, c'est une église qui est empreinte d'écoute et de compréhension. C'est une église dont les membres sont animés par le désir d'entretenir des relations de qualité. C'est une église qui réalise que la maturité spirituelle s'obtient par l'encouragement et la valorisation. On va lire les versets 25 à 27. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Dans l'histoire, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux, tout le monde fait la fête, sauf un. C'est le fils aîné. Lui, il arrive avec une tête de 3 km de long, là, vous voyez. Et c'est le râleur de l'histoire. Il n'est pas content. Il était dans les champs, il était en train de travailler. Vous imaginez un peu la scène, il revient vers la maison, le soir, sans doute que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, et puis il commence à entendre de la musique. Alors il se dit, tiens, peut-être que ce sont un voisin qui fait une fête. Et au fur et à mesure qu'il approche, il s'aperçoit que la fête, elle est dans la maison de son père. Elle est là où il habite. Alors c'est ce qui le conduit à demander à un serviteur, mais pourquoi il y a la fête? Et puis le serviteur lui dit que c'est parce que son fils est revenu. On continue le récit à partir du verset 28. Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer. Mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau que nous avons engraissé. » Le fils aîné se fâche. Il refuse même d'entrer dans la maison. Son père est obligé de sortir de la maison pour venir lui parler et pour l'inviter à participer à la fête. Mais le fils n'accepte pas et il formule des reproches contre son père. Il dit « Non, 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 c'est pas possible. Mon frère ne mérite pas le veau gras. Mon frère ne mérite pas la fête. J'aurais moi-même, si j'avais voulu organiser une fête avec mes amis, j'aurais demandé moins, simplement un chevreau. Et pour lui, on tue le veau gras, le veau qu'on a engraissé. Il ne mérite pas ça. » Voyez comment le fils aîné pose un diagnostic très sûr sur son frère. Il n'est pas digne. Il est imparfait. Il a commis des erreurs. Il ne prend pas en considération l'amour et le pardon de son père, mais il se focalise sur le niveau moral de son frère qu'il trouve très bas. Verset suivant. Le père répond. Le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. » Le père insiste. Il affirme face au fils aîné, « Mais non, 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 il faut se réjouir, il faut faire la fête. C'est normal d'entourer ton frère. C'est bon de le valoriser, parce que pour lui, il y a une nouvelle vie qui commence. Et il faut l'encourager. Il faut qu'on puisse l'entourer, il faut qu'on soit là pour qu'il puisse entrer pleinement dans cette nouvelle vie. Pour que là, nous l'accompagnions dans le choix qu'il a fait de venir vers le Père. Alors c'est vrai qu'il n'est pas exempt de défauts, mais on le met à l'honneur pour qu'il prenne pleinement conscience de ce nouveau départ. » La grâce nous dit que malgré notre imperfection, nous avons beaucoup, 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 beaucoup de valeur aux yeux de notre Père Céleste. Une valeur inestimable. Une valeur peut-être que nous avons des fois même du mal à mesurer. Nous avons tellement de valeur pour Dieu, pour notre Père Céleste, qu'il fait de nous ses enfants, grâce à Jésus. Et dans la mesure où nous avons tous été graciés, nous ne devrions pas porter un regard de supériorité sur les imperfections et les erreurs des autres. On peut toujours constater une erreur. On peut toujours constater une faute, une imperfection, un péché même. Mais si nous utilisons les défauts des autres, comme le fait le fils aîné, pour nous valoriser, pour nous rassurer, pour nous sécuriser, on n'est visiblement pas au bénéfice de la grâce. La grâce, au contraire, elle nous conduit à écouter les autres, à nous écouter les uns les autres. La grâce, elle nous conduit à nous comprendre les uns les autres. La grâce nous conduit à nous encourager les uns les autres. La grâce nous conduit à nous mettre au même niveau que les autres. Vous savez, moi, je suis toujours un petit peu gêné quand il y a des chrétiens ou des chrétiennes qui se présentent, ils viennent là, puis ils ont quelque chose à partager avec vous. Ils se présentent un peu comme les messagers du Seigneur, et puis ils ont quelque chose à te dire pour ta vie ou quelque chose à te dire pour l'Église. Et ils ont une révélation et ils arrivent et ils formulent ça. C'est enrobé de versets bibliques, c'est formulé comme si c'était le prophète Ésaïe qui parlait quelquefois même. Et puis au final, donc j'entends bien, j'écoute, mais c'est pas édifiant. C'est pas édifiant malgré le package, malgré la façon dont c'est présenté. Au bout du compte, ça m'édifie pas, ça m'encourage pas. Des fois même, ça crée plutôt le malaise. Et souvent, j'ai remarqué que ce sont comme des critiques déguisées. Et ça c'est l'attitude du fils aîné qui se met au-dessus, qui juge, qui se sent autorisé à faire des reproches, plus qu'à encourager. J'ai reçu des paroles inspirées auxquelles il a fallu que je me mette à l'écoute, que ce soit pour ma vie personnelle ou que ce soit aussi dans le cadre de mes responsabilités pastorales, que ce soit pour le groupe de jeunes ou pour cette église. Et il y a des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, bon voilà, j'étais dans la prière, j'ai reçu cette pensée et je pense qu'il faut que je la partage avec toi par rapport au groupe de jeunes, par rapport à toi. Mais voilà moi ce que j'ai reçu et voilà, je te la donne et tu vois. Maintenant, c'est à toi de voir. Vous voyez, et quand moi je reçois ces paroles-là, là je suis à l'aise. Là, ça m'appelle à être vigilant. Là, à ce moment-là, je me sens en confiance parce que je ne me sens pas pris de haut, je ne me sens pas jugé. Là, je ne me sens pas inférieur. Et là, je suis prêt à recevoir. Parce que je sens qu'au travers de ce qui est partagé, il y a un vrai souci de la part de la personne qui partage. Il y a un souci de ma personne. Il y a un souci de l'œuvre de Dieu. Et c'est apporté vraiment dans le sens que ça me fasse du bien ou que ce soit bon pour l'œuvre de Dieu. Voyez la différence ? Les choses ne sont pas faites là pour se mettre au-dessus, pour se mettre à niveau, pour que les choses avancent. Si la grâce agit en moi, je devrais plutôt faire preuve de bienveillance et de tact à l'égard de mon frère, à l'égard de ma sœur qui s'est mal comportée, qui a peut-être là besoin, c'est vrai, de recevoir une parole. Mais il faut y aller pas pour casser. Le fils aîné, il casse le fils cadet. Il faut y aller là avec beaucoup de bienveillance. Je vais m'adresser à lui ou je vais m'adresser à elle d'égal à égal. Je vais m'adresser à lui ou à elle comme un gracié à un autre gracié, comme une personne perfectible à une autre personne perfectible. Je vais m'adresser à lui ou à elle comme à une personne qui a besoin d'être épaulée, qui a besoin d'être accompagnée, qui a besoin d'être conseillée. C'est ça ce qu'inspire la grâce. Et c'est le genre de répercussion que nous devons avoir aussi dans nos liens les uns avec les autres. Et le troisième et le dernier point, c'est que la grâce inspire le changement. Une église qui vit sous la grâce, c'est une église qui rend possible la transformation du caractère et de la personnalité de ceux et de celles qui la composent. Et on va pouvoir faire le lien, bien évidemment, avec ce que Daniel a partagé avec nous ces deux derniers dimanches, et ce que Noël a partagé avec nous l'autre mardi sur la repentance, et Daniel aussi. Le fils cadet, on l'a vu tout à l'heure, considérait son père comme mort. Et la rupture de la relation avec son père l'a conduit à se comporter comme il voulait. Il pouvait se livrer à la débauche sans craindre le regard de son père. Dire bah, « mon père ne me voit pas, mon père n'a plus rien à me dire, mon père n'existe plus pour moi ». Mais en réalité, ce n'était pas le père qui était mort. C'était le fils lui-même. C'est ce que nous lisons au verset 24. Lorsque le père décide de faire la fête, il le dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Et c'est ce qu'il redit ensuite, on le lit au verset 32, à son frère. Il fallait qu'on fasse la fête parce que ton frère était mort, mais il est revenu à la vie. Ce n'est pas le père qui était mort, c'était le fils qui était mort. Pourquoi il était mort? Il était mort parce que Il n'avait plus de contact avec son père. Il ne pouvait plus avoir les ressources du père pour vivre. Il est mort parce qu'il avait dilapidé son héritage et qu'il s'est retrouvé dans le dénuement le plus total. Le fils cadet s'aperçoit à un moment qu'il est en train de mourir. S'aperçoit qu'il a plus ce qu'il faut pour vivre. Et c'est à ce moment-là qu'il regrette de ne plus bénéficier des richesses de son père. Si on revient au verset 17, là on a la réflexion, c'est la diapo d'après. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, je meurs de faim. » Il s'aperçoit qu'il est en train de mourir. Et là, il est prêt à changer. Là, il est prêt à prendre une autre direction. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Il faut que je me nourrisse à nouveau. Il faut que je retrouve la vie. Il n'est plus le fils arrogant et sûr de lui qui a affronté son père. Maintenant, il fait preuve d'humilité. Jusqu'à vouloir ne plus être appelé fils par son père et à devenir à la place un salarié de son père. Et lorsqu'il arrive, et c'est ça qui va justement contribuer à changer les choses, c'est qu'il accepte la parole du père qui le désigne à nouveau comme son fils. « Mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Il s'adresse à lui en disant « Mon fils !» Et ce qu'il fallait que le fils cadet fasse, c'est recevoir cette parole. C'est-à-dire « Tu m'appelles mon fils ? Alors d'accord. » Je voulais être un salarié, je voulais être un ouvrier, mais si tu m'appelles mon fils, ok, je suis ton fils. Imaginez la proximité, imaginez la profondeur de la relation entre le fils et son père. Elle était complètement coupée avant, mais là c'était quelque chose de nouveau, c'était un nouveau rapport qui s'instaurait entre le père et le fils. Le fils, lui, au contraire, n'est pas disposé, le fils aîné, pardon, au contraire, n'est pas disposé au changement. Lui, il est persuadé qu'il fait déjà tout bien. C'est ce qu'il dit à son père, vous vous souvenez, hein, verset 29. « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres, et moi, tu ne m'as jamais récompensé. Je fais tout bien. Alors, si je fais tout bien, je n'ai pas besoin de changer. Hein. C'est forcément inévitable, c'est la conclusion inévitable. Il a vraiment beaucoup d'assurance. Et son assurance est liée au fait qu'il est actif dans la maison de son père. Il travaille, il est au champ, il sert. Mais son père lui répond qu'il n'a pas besoin de faire tout ça pour bénéficier des richesses du domaine. Verset 31. Le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. » Pas la peine de te fatiguer comme ça. Là, tu es en train de travailler pour me dire que tu mérites, mais ce n'est pas la peine. Le père avait déjà pris la décision que son domaine appartenait à son fils aîné. Décision souveraine. Il fait comprendre à son fils que ce qui est important n'est pas ce qu'il fait pour son père, mais la relation avec son père. « Mon enfant, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. » Le fils aîné n'a pas une relation assez profonde avec son père pour comprendre l'amour qu'il porte à son fils cadet. Le fils aîné est comme imperméable à l'amour que son père exprime pour son frère. L'amour de son père ne semble pas l'influencer. Et le résultat, c'est qu'il n'écoute pas la parole de son père. Il n'écoute pas la parole de son père. Dieu nous sauve par grâce. Il nous accepte par grâce. Il nous accueille par grâce. Il nous prend là où nous sommes. Il nous prend dans notre imperfection. Il nous prend dans notre faiblesse. Il n'attend pas qu'on soit parfait pour commencer à nous bénir et pour nous sauver. Mais il le fait pour faire quelque chose de nouveau avec nous. Il le fait pour nous rendre plus forts, il le fait pour nous rendre plus sains, si on veut reprendre les mots qu'on trouve dans la Bible. Quand la grâce agit, elle transforme. Quand la grâce agit, elle change. Si la grâce est en action dans notre vie, nous sommes appelés à changer. Le changement est inévitable. Mais la grâce réclame la capacité de savoir se remettre en cause. Elle me demande la capacité d'admettre que j'ai constamment besoin de changer, que les choses ne sont jamais acquises définitivement. Nous savons que la parole de Dieu nous éclaire sur nos défauts. Nous savons qu'elle nous montre ce qui doit changer. Mais la parole de notre Père Céleste ne peut avoir d'effet sur nous si notre relation personnelle avec lui n'est pas profonde. Le fils aîné a reçu la parole du Père « Tu es mon fils ». Le fils cadet, pardon, a reçu la parole du père, tu es mon fils. Le fils aîné ne reçoit pas la parole du père. Il résiste constamment parce qu'il n'a pas besoin de changer. Il pense que toutes choses lui appartiennent en raison là, de sa certitude. Chaque dimanche, nous ouvrons la Bible. Et le piège, ce serait de considérer que la Bible est un but en soi. Mais la Bible, ce n'est pas un but en soi. La Bible, c'est le moyen de connaître Dieu. Et le but de la Bible, c'est de nous amener à avoir et à développer une relation personnelle avec Dieu. Quand je lis la Bible, ça doit m'amener à mieux connaître Dieu. Quand je lis la Bible, je reçois une parole qui m'encourage à pleinement recevoir l'amour de Dieu si la parole me parle de l'amour de Dieu. Quand je lis la Bible, ça me pousse à trouver dans la relation avec Dieu cette joie peut-être que je n'ai pas. Quand je lis la Bible, ça me pousse là à trouver la sainteté de Dieu à laquelle je suis appelé à aspirer. Si nous nous contentons simplement de lire la Bible, mais que ça ne débouche pas sur une relation, sur l'approfondissement de ma relation personnelle avec Dieu, on passe à côté. Et c'est ce qui fait qu'on peut ouvrir la Bible dimanche après dimanche et être imperméable. Parce que les choses ne peuvent changer et nous ne pouvons être transformés que si ce que nous dit la Bible nous conduit à connecter avec Dieu et à recevoir de Dieu ce dont j'ai besoin. Vous voyez, alors, je ne suis pas en train de dire c'est pas important de lire la Bible. La Bible, elle est essentielle parce que c'est le seul moyen que nous ayons de connaître Dieu. Et c'est par ce biais qu'il se révèle. Mais c'est pour nous conduire à lui. Nous ne devons pas seulement être touchés, mais nous devons être changés. C'est tellement présent dans notre vocabulaire. Dieu m'a touché. J'ai été touché par Dieu. Quand je suis touché, c'est bien, hein, c'est bien d'être touché. Hein. Quand je suis touché par Dieu, quand je suis touché par l'Esprit de Dieu, bah, c'est comme si je rechargeais la pile, c'est comme si je rechargeais les batteries. Et puis, c'est bon, là, j'ai vécu un bon culte, le Seigneur m'a parlé, m'a renouvelé, m'a fortifié. Et puis, le dimanche soir, ça va, le lundi matin, ça va, le mardi. Et... Mais quand on est touché, au bout d'un moment, bah, ça finit par diminuer. Et puis, quand est-ce que ça ira à nouveau bien ? La prochaine fois que je serai touché. Et là, à nouveau, je serai touché, et hop, je serai reparti, je rechargerai les batteries, et puis ça rabaissera après. Et quand est-ce que ça ira bien à nouveau ? Prochaine fois que je serai touché. Ça fonctionne comme ça. Quand on est touché, on va mieux un temps. Quand on est changé, on va mieux tout le temps. C'est pour ça qu'il faut bien saisir la différence entre être touché et être changé. Parce que ce que Dieu veut pour nous et ce à quoi nous encourage la parole, c'est à être changé. L'enjeu pour moi, ce n'est pas seulement que j'aille mieux, mais c'est d'être libre de l'inquiétude qui m'oppresse, d'être libre de la peur de l'avenir, d'être libre de la peur de la maladie. L'enjeu pour moi, c'est pas simplement que j'aille mieux, c'est d'être libre de ce qui me rend esclave, de mes passions. C'est d'être libre de l'avarice, d'être libre de la convoitise, d'être libre de la colère, et mettez toutes les choses là qui vous oppressent, qui vous asservissent peut-être. C'est ça l'enjeu pour les uns et les autres. C'est d'être libre, totalement libre. L'enjeu, c'est pas seulement que j'aille mieux, mais c'est d'être un meilleur mari pour ma femme. C'est d'être une meilleure épouse pour mon époux. L'enjeu, c'est d'être un meilleur père pour mes enfants, une meilleure mère pour mes enfants, un meilleur enfant pour mes parents. L'enjeu, c'est d'être un meilleur collègue pour les gens avec qui je travaille. L'enjeu, c'est d'être un meilleur voisin. L'enjeu, c'est d'être un meilleur serviteur. Il est là le véritable enjeu. Et ça ne peut se faire que si je change, si je suis transformé, si mon cœur est ouvert et que je reçois cette parole qui me pousse à la relation avec Dieu. Lorsque le fils cadet est arrivé devant le père, il était en guenille. Et vous avez vu que le père est allé dans sa penderie. Et il a cherché la plus belle robe. À l'époque, c'était comme ça, les hommes mettaient des robes. Hein. La plus belle robe, peut-être ce qui le représentait le mieux. Une robe magnifique. Et il revêt son fils de cette robe. Et quand je lisais ça, ça me faisait penser à ce texte qu'on trouve dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 24, où Paul dit aux chrétiens, « Revêtez-vous de la nouvelle nature. Revêtez-vous d'un changement, du changement spirituel. Revêtez-vous de la nouvelle nature, ou de l'homme nouveau dans la version seconde, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. » La vérité, c'est la parole. Et c'est ce qui fait que je change. Nous sommes encouragés à être renouvelés et à revêtir cet homme nouveau. Je sais, c'est pas facile de changer. Je vous parle à vous, mais je me parle à moi en même temps. Au bout de presque 20, plus que 25 ans de vie chrétienne, Je vois encore les domaines dans ma vie où j'ai besoin de changer. Ouais, quand au début, je suis venu vers le Seigneur, je pensais que ce serait beaucoup plus facile au fur et à mesure que j'avancerais dans la vie chrétienne. Et je me disais, dans 25 ans, je serais comme une espèce de sage. Les choses seraient beaucoup plus simples. Toutes mes paroles, là, tout ce que je dirais, ce sera percutant, ça fera du bien. Mes pensées seront assainies. Mais je vois que j'ai encore besoin de la grâce. Et je réalise encore plus, après 25 ans de conversion, combien j'ai besoin de la grâce. Changer, ça peut être long. Et des fois même, ça donne envie de changer, de jeter l'éponge. Je dis, oh, mince, après toutes ces années, là, j'en suis encore là. J'ai encore réagi comme ça, j'ai encore pensé ça. Qu'est-ce qui va me redonner courage? Qu'est-ce qui va me donner la force d'avancer? Mais c'est la grâce de Dieu. Parce que je sais que je suis accueilli par Dieu. Si vraiment je viens dans un esprit de sincérité à Dieu, eh bien, Dieu, là, par sa grâce, comme le père de la parabole, il m'accueille. Et quand je chute, quand là, je suis confronté à ma faiblesse, si je regrette ma faute et que je reviens vers lui, il court vers moi, il me prend dans ses bras, il ne me prive pas de sa présence. Au contraire, il m'accueille. Et c'est ce que nous devons saisir par la foi. La grâce me conduit à bénéficier de la présence de Dieu à chaque moment, à tout moment. On va prier pour ça, on va se recueillir. Le père a dit au fils aîné, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. » Ça, c'est ce que Dieu pouvait dire à son fils Jésus. « Tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est à toi. » Dieu peut le dire à son fils Jésus. Mais Jésus a renoncé à tout ça. Jésus a renoncé à la présence de son Père et à toutes les richesses qu'il possédait pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu et bénéficier de ses richesses. Si nous sommes au contact de ces richesses, nous allons changer, nous pouvons changer. Ce n'est pas une option le changement, en fait. Ce n'est pas quelque chose là qu'on prend ou on ne prend pas. On vient à Dieu, on communique avec Dieu, on change, on est transformé. Qu'est-ce qui va parler le plus, au-delà des flyers, au-delà des invitations, au-delà de tout ce qu'on peut faire pour essayer de toucher les gens qui sont autour de nous? Qu'est-ce qui va parler le plus aux gens? C'est ce que Dieu fait en nous. Ce qui va parler aux gens, c'est notre changement. C'est notre transformation. Il faut que nous soyons une église. C'est vraiment mon désir. Et c'est ce qui me presse à partager ça avec vous. C'est qu'on soit et qu'on vive une église, une communauté qui favorise le changement. Une communauté là où la transformation opérée par Dieu est possible. Et j'aspire à entendre des gens là donner leur témoignage en disant « J'ai changé. Voilà ce que j'étais et voilà ce que je suis devenu. » Et ça, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à cette relation que j'ai avec Dieu. C'est grâce à sa présence parce que j'ai réalisé que Dieu m'accueille toujours. Dieu me tend toujours ses bras. Dieu m'accueille, Dieu me prend, Dieu m'embrasse. Il m'étreint de sa présence. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être dans ta présence. Nous ne voulons pas ouvrir la parole une fois de plus, ouvrir la Bible une fois de plus et être imperméable à cette parole. Seigneur, tu fais naître en nous un profond désir, une profonde envie de changer. Seigneur, nous ne voulons pas simplement nous désoler du changement qui est long à faire, du changement qu'on a l'impression qu'il ne s'opère pas. Mais nous voulons vraiment pleinement placer notre confiance et notre foi en toi et te dire, viens, change-nous. Viens, transforme-nous. Seigneur, nous avons besoin de faire preuve d'humilité. Apprends-nous l'humilité. Le fils cadet a fait preuve de beaucoup d'humilité, jusqu'à renoncer à son statut de fils. Mais toi, par ta grâce, tu nous accueilles comme tes enfants. Seigneur, donne-nous cette même humilité qui était dans le fils cadet. Donne-nous vraiment, Seigneur, de pouvoir, là, au travers de cette humilité, te voir agir dans nos cœurs, te voir agir dans nos vies, te voir agir dans notre personnalité, dans notre caractère. Nous sommes un peuple gracié, nous sommes un peuple racheté et nous voulons briller. Nous voulons que les gens qui sont autour de nous puissent se rendre compte que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu miraculeux, que tu accomplis de grandes et belles choses, que tu changes la vie. Seigneur, agis en nous par ton esprit. Nous voulons ouvrir notre cœur à ta présence encore ce matin. Seigneur, inspire-nous la bienveillance, donne-nous de nous encourager les uns les autres. Nous ne voulons pas nous mettre au-dessus des autres. Mais parce que tu nous as tous graciés, on est au même niveau. Et même si nous constatons là qu'un frère, une sœur a besoin là d'être conseillé, d'être pris, donne-nous de le faire avec bienveillance, avec tact, Seigneur. Seigneur, inspire-nous des relations de bonne qualité. Nous voulons vraiment nous épauler les uns les autres, nous encourager les uns les autres. Nous voulons vivre la joie de Dieu ensemble. La grâce inspire la joie. C'est cette joie-là, Seigneur, que nous voulons manifester les uns auprès des autres, les uns avec les autres. Et que le monde puisse voir la joie que tu communiques, la joie que tu procures lorsque l'on te connaît. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur.